problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'after, la seule émission en direct 7 jours sur 7, évidemment. Casting du soir, bonsoir, la team du week-end entièrement réunie, exceptionnellement car c'est un after de 3 heures. Salut Jonathan McCarty.
Salut les gars.
John Mack est dans la place, KD est là aussi. Salut KD. Kevin Diaz.
Salut, bonsoir à tous.
Et DP, Damien Perrinel est là aussi. Salut Damien.
Salut les gars, salut tout le monde.
Bon, je rappelle que nous on ferme pas, effectivement. C'est important de le préciser pour tous ceux qui sont en manque de foot. Il y a un after tous les soirs. Même pendant cette drôle, étrange, triste période, évidemment, vous avez suivi les dernières annonces du Premier ministre Édouard Philippe. L'after est là tous les soirs, bien sûr, malgré l'actualité. On écoute vos envies d'ailleurs. Plus participatif que jamais, l'after. Envoyez-nous vos idées de sujets, de débats sur le hashtag MonAfter toute la semaine. On va bien sûr poursuivre les afters de 3 heures, évidemment, avec vos idées. Entre autres, bien sûr. Ce soir, déjà, ça commence au sommaire. Bon, évidemment, on va revenir sur les dernières nouvelles, déclarations de Jean-Michel Aulas, ce président de l'Olympique Lyonnais, qui persiste et signe sur son idée, en cas de saison blanche, de prendre le classement de la saison dernière. Vous verrez que Didier Quillot, patron de la Ligue, lui a répondu sur RMC cet après-midi. Puisqu'il n'y a plus de match également, nous, on s'est demandé, tout simplement, si vous deviez voir un match ou revoir un match dans l'histoire du foot, dans votre histoire intime du football, lequel choisiriez-vous ? Vous avez déjà votre match, les gars ?
Oui.
Oui. Ouais.
On le garde.
Très clairement.
Et puis un quiz spécial Club Français en Coupe d'Europe en fin d'after. Et, je vous le disais à l'instant, plus que jamais, cet after est une émission pour vous, auditeurs, afteriens. On devrait commenter, c'est vrai, les résultats des matchs de Ligue 1 ce soir. Il n'y a pas de match, vous savez pourquoi. Alors nos hommes de terrain, ceux qui auraient dû être dans les stades, sur les 5 stades de Ligue 1, sont avec nous pendant 1h30 en mode libre antenne, façon, vous vous rappelez, Doc Eddie Fool et compagnie, là, tu te rappelles ?
Ça existe encore.
Aussi. Ça existe encore, oui ? J'écoute plus, j'écoute les gamins.
Au centre de formation.
Le soir à 23h dans ma chambre, c'est un loose day sous l'oreiller. Ah. Ou Max également, on écoutait Max aussi, tu te rappelles le Max ?
Moi, non, j'étais plus Doc.
Je vous rappelle de Max. Voilà, donc vous nous appelez. Je vous rappelle le casting ce soir. Pierre-Yves Leroux sera avec nous, notre correspondant dans le Grand Ouest, pour évoquer Rennes, Angers et Nantes. Flo Germain pour Marseille. Quel Julien Landry pour Montpellier et Nîmes. Jordan Olivier pour Nice et Monaco. Jean Baumel pour Lille et Amiens. Il n'y a pas tous les clubs de Ligue 1. On en reste aux hommes qui auraient dû travailler ce soir sur les stades. C'est pour cette raison. On boycotte pas du tout Paris, ni Lyon, ni.
On en parle beaucoup déjà quand même.
On en parle déjà beaucoup. Mais bon,
Paris, vous trouvez ?
Les Dijonais, les Nantais, enfin, les Dijonais pourraient se sentir floués dans cette histoire. Dans la semaine, on le fera évidemment. Donc, une heure et demie spéciale réservée à vous, afteriens. Appelez-nous. Le hashtag RMC Live, le 3216, bien sûr. L'application Direct Studio. Posez vos questions à nos correspondants qui, dans l'ensemble, j'imaginerai vos réponses. Et puis on en débat ensemble, messieurs, autour de cette table. Voilà, ils seront avec nous dans 15 minutes. Mais d'abord, messieurs, c'est parti, l'épisode 2. On aura d'autres fissures, du Aulas Gate. J'exagère un petit peu, mais quand même. Je rappelle les faits. Monsieur Jean-Michel Aulas, cher président de l'Olympique Lyonnais, a proposé qu'en cas de championnat qui n'irait pas à son terme, il faudrait considérer que la saison est blanche et donc reprendre le classement de la saison dernière. Je rappelle que Lyon avait terminé deuxième. Ce serait un terrible coup du sort pour Rennes, deuxième de Ligue 1, et pour, troisième de Ligue 1 et Marseille, deuxième de Ligue 1. Nathalie Boislatour, aujourd'hui présidente de la LFP, a affirmé qu'elle était convaincue que le championnat irait à son terme. De son côté, Didier Quillot, un directeur exécutif général de la Ligue, était sur RMC cet après-midi. Il n'a pas voulu répondre directement à Jean-Michel Aulas, mais écoutez ce qu'il a dit.
La première responsabilité de la Ligue du football professionnel, c'est la défense de l'intérêt général.
Et l'intérêt général, ce sont 40 clubs, 20 clubs de Ligue 1 et 20 clubs de Ligue 2. Et la deuxième responsabilité de la Ligue, c'est d'organiser des compétitions et de les conduire à leur terme. C'est un engagement que nous avons vis-à-vis des diffuseurs. Et ne pas le faire nous exposerait à un risque économique. Notre seul objectif, c'est que le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2 aillent à leur terme.
Bon, alors Jean-Michel Aulas, évidemment, très rapidement, était très actif aujourd'hui sur Twitter, hein, Jean-Michel Aulas, qui a répondu à Didier Quillot en disant « Didier, jeudi soir, tu ne voulais pas arrêter la Ligue 1 car ça allait coûter 170 millions d'euros. » Voilà, ça c'est la réponse de Jean-Michel Aulas. T'en as déjà parlé toi hier soir, Damien, dans l'after. Je veux l'avis également de Kevin et Jonathan sur l'idée que propose, encore une fois, si le championnat ne va pas à son terme, Jean-Michel Aulas, de prendre le classement 2018-2019. Joe.
Écoute, moi, je pense simplement que son comportement, il est gerbant. C'est un comportement de petit opportuniste de bas niveau. Effectivement, oui, pour ça arrangerait l'Olympique Lyonnais, parce que quand tu vois la médiocrité de la gestion à l'intersaison avec cette pseudo-révolution amorcée avec Silvinho et Juninho, quand tu vois la catastrophe sportive, même si, effectivement, tu as ce match contre la Juventus, même si, effectivement, tu as remporté le derby, on est d'accord que c'est une catastrophe industrielle pour l'Olympique Lyonnais de ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Il voit une petite ouverture, malgré le drame qui nous entoure, et lui, égoïstement, petite mentalité, il met le doigt de pied dans la porte pour essayer d'en tirer parti. Écoute, c'est pathétique, c'est gerbant. J'avais envie de dire, mais j'ai peur que ça soit, c'est peut-être un petit peu trop fort. J'aurais peut-être dit que c'est une mentalité de collabo, mais je ne le dirais pas.
Là, non, tu vas loin.
Mais c'est scandaleux et c'est abject. Franchement, c'est abject.
Là, tu vas.
Il n'y a pas d'autre terme, c'est abject. Et c'est vraiment, vraiment, mais là, j'espère que l'ensemble des acteurs du monde du football français vont dénoncer ce comportement et se liguer contre Jean-Michel Aulas, parce que là, franchement, il a franchi une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et très franchement, ça a été un grand président pour son club. Il a fait des choses extraordinaires à Lyon. Ça, on n'a pas besoin de le rappeler. C'est vraiment, je pense que c'est dans le top 3, top 4 des plus grands présidents de l'histoire du football français. Mais là, il aurait pu s'abstenir.
Bon, attention, Jonathan, quand même, au terme que tu
je l'ai
choisis.
Pas dit.
Hein. Oui, bon, si, tu l'as quand même dit.
Non, mais je ne l'ai pas dit.
Kevin? Et dans un instant, on aura le plaisir d'accueillir Bernard Blacard, bien sûr, l'entraîneur du Nîmes Olympique, à qui on posera la question sur le sujet. Kevin.
Bon, moi je pense que faut absolument dire que footballistiquement, pour enlever toute considération de clubisme, peu importe, ça aurait été Jean-Michel Aulas, ça aurait été Nasser El Khelaifi ou Héros, peu importe, le président qui peut avoir cette idée-là, pour moi il y a juste un mot, c'est que c'est ridicule. C'est ridicule de penser qu'un championnat où on a déjà disputé 28 journées, alors chacun peut avoir son avis, hein. J'ai entendu sur un autre plateau dire que pourquoi pas, oui, ça pourrait être en effet, parce qu'il reste 10 matchs à jouer, alors pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ce qu'il adviendrait de ces 10 matchs, mais alors annuler 28 matchs, mais c'est énorme 28 matchs dans une saison. Et je comprends pas comment quelqu'un qui est dans le sport depuis des années, qui est un entrepreneur comme Jean-Michel Aulas, pourrait avoir l'idée de vouloir reprendre le classement de l'an dernier. Mais sur quel principe, sur quel fait? Mais
Kevin, c'est parce que c'est dans son intérêt.
Non mais attends, il y a un moment, on doit avoir au-delà des intérêts. Des fois, il y a des présidents qui reprochent que leur club soit mal aimé.
Bah lui dit,
mais lorsque tu fais des sorties comme ça, Nico, comment tu veux que ton club soit bien aimé? C'est complètement contre-productif pour l'Olympique Lyonnais.
Non, surtout quand Jean-Michel Aulas nous sort cette hypothèse, donne-nous des arguments. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à vouloir cette solution? Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas est quand même le président. La sorte de syndicat des présidents de clubs.
Mmh. Oh
ouais. Faut savoir qu'il a été désavoué publiquement aujourd'hui par bon nombre d'entre eux, qui est pourtant.
Faut pas hésiter, hein, Xavier Tuyot notamment à Saint-Étienne.
Tuyot, Gérard Lopez
à Lille.
Jacques-Henri Hérault, du coup, même le président intérimaire Lévesque, je crois, à Rennes, qui n'ont pas hésité à se positionner contre cette solution. Après, c'est vraiment représentatif aujourd'hui. Des présidents de clubs en France où chacun prêche pour sa paroisse de manière individualiste et qui ne pense pas à l'intérêt collectif en fait du football français. Et c'est peut-être quelque chose où on a des leçons à prendre de ce qui se passe en Allemagne, notamment en Angleterre, où Bah voilà, il y a les 40 clubs professionnels, les 40 présidents qui font tout pour que le football en général de leur pays progresse. Et aujourd'hui, bah en France, ça se passe pas comme ça. Et on va juste être là pour que son intérêt personnel soit au top.
Bernard Blacard est avec nous, entraîneur du Nîmes Olympique. Bonsoir Bernard Blacard.
Bonsoir.
Et merci bonsoir. D'être avec bonsoir. Nous. Bon, avant qu'on évoque la proposition de Jean-Michel Aulas, qui fait énormément réagir, bien sûr. Comment ça va chez vous, à Nîmes, justement? Rappelez-nous un petit peu les conditions de travail, s'il y en a encore, au sein du Nîmes Olympique.
Oui, nous, on a fermé le centre de formation, mais on a décidé de continuer l'entraînement de l'équipe professionnelle en prenant toutes les précautions possibles. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu, donc de se retrouver lundi après-midi à l'entraînement. Et je crois qu'après, on verra au jour le jour, mais on a prévu une semaine normale d'entraînement ou quasi normale d'entraînement, voilà, avec beaucoup de précautions.
Avec beaucoup de précautions, bien sûr. Bon, Bernard Blacard, vous en pensez quoi finalement de cette déclaration de Jean-Michel Aulas qui date d'hier? Il a prolongé le débat aujourd'hui en disant « Vous n'êtes pas d'accord, mais alors on fait quoi si on n'arrive pas à aller au terme du championnat ?» Son idée de reprendre le classement de la saison dernière, vous en pensez quoi?
Ouais, je pense que tout le monde pense la même chose. Voilà, aujourd'hui, il faut faire preuve de retenue et de mesure. Jean-Michel Aulas est un excellent président, c'est certainement le meilleur président quand il faut défendre son club, mais aujourd'hui je pense qu'il faut attendre, savoir si le championnat va reprendre. On peut espérer raisonnablement qu'il reprenne, à condition que l'Euro soit repoussé ou carrément annulé. Si c'est le cas, il reste quand même 3 mois et demi pour finir le championnat, donc je pense que à moins d'une catastrophe, on a quand même des chances de le terminer. Donc c'est prématuré de parler de ça aujourd'hui, pour moi, voilà. Et puis reprendre le classement de la saison dernière, oui, c'est... Non, je pense que c'est pas la bonne solution, bien évidemment.
Vous avez terminé combien la saison dernière? Je me souviens plus, d'ailleurs.
9e.
Ah oui, ouais, bon, nous, c'est pas mal, ça vous arrangerait avec les nouveaux droits télé.
Merci pour votre honnêteté intellectuelle.
Ça nous irait bien. Non, je ne peux pas imaginer cela, je ne le souhaite pas du tout. Et Jean-Michel Aulas défend les intérêts de son club, et là, il est très très fort dans ces cas-là, on le sait.
Qu'est-ce que vous préconiseriez si jamais, effectivement, nous ne pouvions pas aller au terme du championnat? Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui fleurissent, évidemment. Garder les positions actuelles du classement.
Moi, je suis. Ça m'étonne qu'on parle de tout ça parce que aujourd'hui, il y a une situation quand même qui est grave.
Bien sûr.
Si elle évolue pas favorablement, le football, quand même, c'est pas la priorité.
Ouais, c'est secondaire. Bien sûr.
Si on n'arrive pas à reprendre le championnat, pour finir le championnat, mettons le 30 juin, si on arrive à repousser l'Euro, il peut très bien se terminer fin juin, donc ça voudrait dire qu'il doit reprendre la deuxième quinzaine de mai au plus tard. Donc si dans 2 mois la situation ne s'est pas améliorée, on sera pas bien, hein. On sera vraiment pas bien. Et le football là-dedans, c'est presque ridicule.
Bien sûr.
On peut raisonnablement espérer que les choses aillent mieux et que le championnat se termine. Après, je me pose pas la question aujourd'hui d'un championnat qui se terminerait pas. Il y a rien dans les règlements qui règle ce problème-là. Donc je sais pas comment. Aujourd'hui, je me pose pas la question parce que j'espère et je souhaite qu'on finisse le championnat.
En tout cas, Bernard Blacard est avec nous. Hein. Propos très raisonné, raisonnable du coach du Nîmes Olympique.
Bonsoir Bernard. Écoutez, déjà merci d'être avec nous. Je voulais savoir, question qu'on doit vous poser, on a déjà dû vous poser, mais comment vous gérez du coup cette espèce de mini trêve pour maintenir vos joueurs en forme concernés? Est-ce que vous avez un programme, leur donner des programmes de maintien physique? Comment ça se passe?
Je l'ai dit tout à l'heure, nous aujourd'hui on a décidé de continuer l'entraînement en prenant des mesures sanitaires et des précautions évidemment. Mais pour l'instant on a prévu de se retrouver lundi et de s'entraîner une fois par jour tout au long de la semaine prochaine.
Et si la situation, ce qu'on ne souhaite pas, est tend à s'empirer, est-ce que les joueurs doivent rester confinés? Est-ce que vous avez déjà prévu le coup?
Là, on les laissera. De toute façon, j'ai prévu à un moment donné de leur laisser 4-5 jours de repos. Donc, mais la situation évolue tellement vite. C'est pour ça que les propos de Jean-Michel Aulas sont pour moi prématurés. Ne sont pas adéquates à la situation. Ils sont inappropriés parce que il y a 8 jours, rappelez-vous, on jouait le championnat avec des spectateurs.
Oui,
c'est vrai.
Il
c'est
a été décidé, je ne sais plus, lundi ou mardi, il a été décidé le huis clos. Très bien. Il y a moins de 48 heures, il a été décidé d'arrêter le championnat.
Ouais.
Depuis l'intervention du président de la République, depuis il y a eu l'intervention du Premier ministre, chaque jour apporte ses nouvelles. Donc je pense qu'on est tous en train de s'adapter à la situation et il faut voir au jour le jour.
Ouais.
Merci beaucoup Bernard Blacquart d'avoir répondu. C'est très sympa d'être venu dans l'after. Et puis bon courage pour ces prochains jours, prochaines semaines. Tiens, un mot sur vos joueurs, ils sont dans quel état d'esprit? Ils sont atteints par l'actualité, évidemment. Est-ce qu'ils vous posent beaucoup de questions?
Comme tous les joueurs, ils sont inquiets par rapport à la situation, de toute façon, en général. Et puis, comme tous les joueurs, ce qui les intéresse, c'est de jouer.
Évidemment. Oui.
Voilà. S'entraîner pour ne pas jouer, ça ne les intéresse pas.
Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Excellente merci. Soirée à vous. À très vite, on l'espère, dans l'after. Madame Blacquart, qui entraîne une équipe qui est souvent avec nous dans les after du week-end, bien sûr. Tiens, messieurs, les nouveaux cas positifs au coronavirus déclarés à la Sampdoria ont poussé les médecins de Serie A à se prononcer contre une reprise rapide de l'entraînement, extrêmement précautionneux. C'est vrai que depuis jeudi, il y a 5 joueurs de la Samp, 1 de la Juve, ont également été déclarés positifs. Je rappelle que la Serie A est suspendue jusqu'au 3 avril, au minimum.
Nous, on n'a pas de date.
Mais les Italiens ne s'attendent pas à...
Quoi ? En France, on n'a pas de date vraiment de reprise. Du coup.
Mais après, même en Italie, ils donnent des dates. C'est mais ça, je veux dire qu'ils n'en savent rien du tout. Impossible.
Excuse-moi, je te coupe, mais par rapport à ce que disait, je sais plus si c'est Kevin ou Damien qui disait par rapport à Jean-Michel Aulas, qu'en fait, il fallait pas après s'étonner que beaucoup de gens détestent le club. Je sais plus qui a dit ça.
C'est moi. Kevin.
C'est toi, Kevin. Mais en fait, je te rejoins là-dessus et je vais encore plus loin parce que moi, ce que je trouve un peu, quand j'ai écouté ses propos, désolé de revenir là-dessus, mais ça m'a fait vraiment de la peine parce que Jean-Michel Aulas, c'est quand même un président emblématique du football français. C'est quand même quelqu'un qui a pris un club au plus bas niveau, qu'on a fait un des plus grands clubs de l'histoire de notre football, qui a gagné des trophées, qui a géré ça d'une main de maître pendant des années, qui a toujours eu ce côté un petit peu abrasif vis-à-vis des supporters des autres clubs, mais même des autres clubs, qui a toujours eu voilà cette tendance à aller un petit peu à la confrontation, ouais. Mais ça restait quelque chose qui était maîtrisé et qui voilà à la rigueur, tu vois, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, tu pouvais te sentir fier d'avoir quelqu'un qui représentait ton club de cette manière-là. Mais là il est en train de franchir la ligne rouge et ça fait quand même quelques mois, quelques années maintenant, c'est que là, très franchement, la situation, ça appelle à la réserve, à la pudeur. Et très franchement, quand on voit ces déclarations-là et cet opportunisme-là, mais c'est pas le Jean-Michel Aulas qu'on connaît et qu'on a envie de voir. C'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités dans notre football. Et quand tu vois la manière dont il se comporte comme un petit chiffonnier, très franchement, je suis sûr que même lui s'en rend compte que c'est pas un comportement à avoir.
Voilà pour le chapitre Jean-Michel Aulas. Je vous rappelle que dans un instant, on va ouvrir l'antenne à tous nos auditeurs aftoriens pour une sorte de libre antenne, exactement comme on l'appelait au début des radios libres. Bien sûr, avec 5 correspondants sur le terrain. Julien Landry pour Montpellier et Nîmes, Jordan Olivier pour Nice et Monaco, Jean Baumel, Lille et Amiens, Flo Germain pour Marseille. Appelez-nous, posez vos questions. Le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio, le 3216. Nous y répondrons, bien sûr. On a 1h30 pour ça. Profitons-en. Allez, à tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Bacardi, avec Kevin Diaz, avec Damien Perrinel. Bien sûr, je vous rappelle, s'il le faut, que l'After est là tous les soirs de la semaine. On ne s'arrête pas. Envoyez d'ailleurs vos propositions de débat, de sujets sur le hashtag MonAfter avec Gilbert. Forcément, on va faire le tri, les choisir. Et c'est vous qui allez faire en grande partie le sommaire des prochains after, évidemment, puisque nous avons que trop peu d'actualité, même si Jean-Michel Aulas, heureusement qu'il est là, Jean-Michel.
Profitez, mais
il crée
profitez.
Crée de l'actu,
là.
Jean-Michel.
Ouais, mais profitons. Mieux de s'abstenir, franchement.
Justement, avant d'accueillir nos 5 correspondants RMC Sport sur le terrain, j'accueille Nassim au 32-16. Salut Nassim.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
C'est très bien, Nassim. Et toi, comment tu vas? Bien.
Bon, ça va. Écoutez, ouais. C'est dur un peu sans le foot, sans le sport tout court d'ailleurs. Ouais. Mais écoute, on fait avec.
Bon, dis-nous Nassim, alors c'est intéressant parce que tu es supporter de l'Olympique Lyonnais, toi. Tu voulais revenir sur les propos de Jean-Michel Aulas, sur la proposition de Jean-Michel Aulas.
On est vraiment curieux de savoir ce que les supporters lyonnais en pensent. Est-ce que vous êtes comme Blacquart ou
pas? Ouais.
Est-ce que vous êtes lucide?
Alors, en fait, moi déjà, c'est parce que je suis tombé par hasard sur le débat qui a eu, c'était vers 17h, un supporter de Marseille, je pense qu'il avait fait une mauvaise sieste et qu'il nous avait dit que Jean-Michel Aulas était le pire des hommes, on aurait dit qu'il avait commis des crimes. Donc c'est pour ça que j'ai appelé et en disant, alors tu restes toujours très je prends beaucoup de recul comme tous les supporters lyonnais sur ce que peut dire notre président. Après, sur l'idée, moi je trouve pas ça déconnant. Je vais donner du sens à ce que je dis. Premier point. On est dans une situation un peu particulière. Oui, c'est pas une guerre, mais bon, depuis 40 ans, ce qui arrive en France, c'est jamais arrivé. Donc, à cas exceptionnel, situation exceptionnelle. Je rappelle qu'en 1939, le championnat de France a été annulé. Il n'y a pas eu de champion cette année-là. Donc, c'est quelque chose qui est déjà arrivé historiquement. Donc ça, c'est petit point historique. Deuxième point, pour moi, il n'y a aucune bonne solution, en fait, parce que quelle que soit la décision qui sera prise, il y aura des personnes qui seront lésées. Si on arrête aujourd'hui le championnat, je vais donner un exemple, c'était Toulouse il y a 2-3 ans, qui devait être relégable et qui, à la fin, s'est sauvé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va reléguer des équipes qui auraient pu sauver, peut-être, à la dernière journée. Donc, d'un côté, c'est injuste. Annuler le championnat et garder le championnat tel qu'il est, c'est une des solutions, mais c'est pas pour moi la meilleure. On peut dire
T'as raison là-dessus.
On peut dire on relègue personne et on prend les trois premiers de Ligue 2 qui montent et on fait l'année prochaine un championnat à 23.
Ouais.
Ça peut être aussi une solution, mais c'est pas parfait non plus. Ouais. Il y a l'Euro qui va arriver. Ça va faire beaucoup de matchs, ça va être tendu. Donc la proposition de Jean-Michel Aulas, on sait qu'elle est toujours un peu intéressée, je l'entends. Ouais, mais parmi toutes les solutions, il n'y en aura aucune de bonne. Même là, si on reprend le championnat, disons qu'on reprend. C'est des footballeurs, c'est pas comment. Moi, demain, on me dit reprends le boulot, moi je reprends le boulot. Mais les footballeurs, on va leur dire
Nassim,
qu'il faut reprendre.
Excuse-moi de te couper.
Attends, et Damien ensuite.
C'est intéressant ce que tu dis, c'est argumenté, et c'est ce qui justement Damien, Kevin et moi avons reproché à la petite sortie de Jean-Michel Aulas. Mais en fait, le vrai problème, et c'est là où je pense que tu te trompes, c'est le problème, c'est pas de chercher une solution. Le problème, c'est de voir que la situation a évolué d'une manière ultra rapide durant les 8 derniers jours, qu'on est passé, comme le rappelait justement Bernard Blacard, d'une recommandation de huis clos à un championnat qui est totalement suspendu. Je trouve que c'est un petit peu indigne, un petit peu, voilà, ça manque un petit peu de pudeur de vouloir chercher une solution maintenant.
Sur l'idée de Jean-Michel Aulas, il y a débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord.
C'est le timing.
Là où tout le monde peut être d'accord, c'est le timing qui est malheureux. Damien.
Non, salut Nassim. Sur ton premier argument, à savoir qu'en 39-40, je crois, c'est ça, ils n'avaient pas pu terminer le championnat. Il faut savoir que les enjeux économiques de l'époque étaient complètement différents. Il n'y avait pas de droit télé, il n'y avait pas de Coupe d'Europe derrière, ainsi de suite. Donc, toi, c'est assez compliqué de comparer ces deux époques parce que les incidences sont différentes. Ensuite, aujourd'hui, comme l'a dit Jonathan, t'es obligé de faire au jour le jour. Peut-être que tu vas reprendre dans un mois, peut-être que tu vas reprendre dans deux mois, peut-être que tu ne vas jamais reprendre, peut-être qu'il va y avoir des dérogations pour que les championnats durent plus longtemps. En tout cas, ce qu'il faudra, je pense, c'est une uniformité au niveau européen. Ce qui me dérange aujourd'hui dans cette sortie de Jean-Michel Aulas, c'est qu'il a décidé de faire cette sortie, mais de manière individuelle, sans concertation avec les autres présidents, sans concertation avec le président de la Ligue, sans concertation avec Nathalie Bois-de-la-Tour. Et cette initiative, elle peut paraître que déplacée aujourd'hui dans le contexte dans lequel c'est sorti.
Exactement.
Et des solutions, je suis d'accord, il n'y en aura pas de bonnes, il n'y aura pas de meilleures solutions, mais au moins la décence d'attendre la fin de l'épidémie.
Kevin, pour conclure en quelques mots. Que c'est pas le moment, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et le coach Blacard l'a très bien exprimé. Maintenant, Nassim, si on parle de la solution footballistique, puisque nous on est là pour avoir un ton entre guillemets un peu plus léger et parler vraiment de ce qu'il a dit au point de vue du football, hein, sans oublier la santé et tout ça qui est beaucoup plus important. Maintenant, toi, tu me dis qu'il n'y a pas de meilleure solution. Maintenant, Nassim, si tu étais second avec l'Olympique Lyonnais alors que l'an dernier, tu avais terminé 9e, jamais de la vie, il aurait dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas possible. Ouais. Tu te rends compte, je sais pas si tu as entendu la réaction de coach Blacard, encore une fois, à Nîmes, qui est beaucoup moins bien classé, qui joue le maintien cette année.
Aujourd'hui, il est barragé, c'est 18e.
Et qui te dit que pour lui, c'est inconcevable de reprendre le classement de l'année dernière. Et tu te rends compte, Nassim?
Même Xavier Tuillot de Saint-Etienne, hein, qui serait européen,
il y a un moment, il faut quand même que sportivement, ça ressemble à quelque chose.
Je crois qu'on a fait le tour, on est quasiment tous d'accord. Merci Nassim, excellente soirée à toi.
Salut Nassim.
Messieurs, c'est parti pour notre séance libre antenne. J'accueille. Quel casting de rêve.
Ce n'est pas sale.
J'accueille, exactement. Non, ça c'était Doc qui disait ça. Non, ça n'est pas sale. Julien Landry, pour Montpellier et Nîmes. Bonsoir Julien Landreau.
Bonsoir messieurs.
Jordan Olivier pour l'IC Monaco. Bonsoir Jordan.
Bonsoir Nicolas, bonsoir
salut
à tous.
Jean Baumel pour Lille et Amiens. Bonsoir Gibo.
Salut, salut.
Salut Jonathan.
Bonsoir Pierre-Yves Leroux pour évoquer Rennes, Angers et Nantes.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Flo Germain à Marseille.
Salut les amis, tu me laisseras 30 petites secondes tout à l'heure parce que ça bouillonnait à l'intérieur là, par rapport
au débat de Jean-Michel. 45 secondes.
J'ai besoin d'en parler, Nico. J'ai besoin
d'en parler. D'abord, messieurs,
ça tombe bien, les gars, il y a le temps.
Cool de vous avoir. D'abord, messieurs, est-ce que c'est parti quelque part?
Non.
Malheureusement, non.
On aurait bien aimé.
Ça va tarder un peu.
Dans un instant, les gars,
c'est parti à Lyon, apparemment.
Par contre, les gars, il va falloir que vous soyez disciplinés. On va établir quelques règles après la pause. L'after et là jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Mais oui, l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr, comme tous les soirs, ce sera encore le cas toute la semaine prochaine et les prochaines semaines jusqu'à la fin de l'année. Et encore après, bien sûr, l'after est éternel. Et on est ensemble jusqu'à minuit, Jonathan Macardy, Damien Perrinel. Kevin Diage, enfin un peu trop quand même, mais quand même. Je vous rappelle le principe, une heure et demie pour évoquer. Évoquez vos clubs. Neuf clubs, les clubs qui auraient dû jouer ce samedi 14 mars et les hommes avec nous qui auraient dû commenter ce samedi 14 mars. Je rappelle le casting. Pierre-Yves Leroux pour Rennes, Angers et Nantes. Flo Germain pour Marseille. Gibo pour Lille et Amiens. J'ai également Jordan Olivier pour Nice et Monaco. Julien Landry pour Montpellier et Nîmes. Posez vos questions, bien sûr, à nos correspondants. C'est un moment privilégié. Bien sûr, on a du temps. Ce soir, évidemment.
C'est parti à Montpellier. Nico, juste un mot. Juste un mot parce que Wilfried Templier est pas avec nous, mais comme il est de Toulouse, il nous dit que Jean-Michel Aulas est un homme de grande valeur et qu'il faudrait garder le calendrier de l'année dernière.
Ouais. Non, mais il y en a qui s'arrangent, même chez vous, hein, d'autres un peu moins.
Ah, bah, Lille, le deuxième, est sûr d'être en Ligue des Champions la saison prochaine et Amiens se maintient.
Surtout à Toulouse, hein, pour revendre le club, c'est quand même mieux de le revendre en Ligue 1 à Toulouse.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une conférence de presse de l'OM jeudi et bon, pour le coup, je lui ai posé cette question-là. Hein, André Villas-Boas, il aurait pu en profiter pour dire non, mais attendez, si le championnat s'arrête, on garde le même classement, parce qu'il aurait eu du coup ce côté opportuniste qu'a eu Jean-Michel Aulas. Il n'a pas du tout répondu ça, il a dit non, mais attendez, c'est pas l'ordre du jour. Il dit je sais même pas, la priorité c'est pas ça, la priorité c'est la santé. Moi je veux qu'on arrête le championnat, je donne mon salaire. Moi j'ai eu honte de mon pays au Portugal parce que j'ai vu des gens aller à la plage. Il a eu un discours beaucoup plus responsable, alors qu'il aurait pu sauter sur l'occasion en se disant non mais attendez, on fiche tout, nous on est deuxième, on va en Ligue des Champions. Jacques Henriero a priori dans le vestiaire a parlé à ses gars pour les rassurer et leur dire que fallait pas s'inquiéter sur la suite du classement, mais il n'y a pas eu de prise officielle de position de la part de l'OM et je trouve que c'est logique, genre c'est pas le moment du tout.
Dans l'ensemble, c'est ce qu'on dit la majorité des présidents de club aujourd'hui.
Non mais les propos d'Alain Blacard, ils étaient hyper responsables, franchement faut le saluer. J'ai trouvé top à l'antenne tout à l'heure. Surtout qu'il y a une réunion, il y a un conseil d'administration de la Ligue. C'est pas le moment d'envenimer les choses et que les présidents arrivent et dans une période où on appelle à l'unité, à la solidarité, se taper dessus pour des histoires de classement.
C'est ridicule.
C'est vraiment malvenu. Quoi. Mmh.
Voilà, messieurs. Donc c'est parti. On a déjà beaucoup de questions sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio. Beaucoup d'appels au 32-16. Tiens, on va commencer par une question pour Pierre-Yves Leroux. Angers. Interrogation Angevine, question de Thomas Pinaroli sur hashtag RMC Live. Comment a été vécue, Pierre-Yves, la mise à pied de Piqueux à Angers?
Non mais de façon plus globale, c'est incroyable ce qui se passe à Angers depuis un mois et demi. Et cette annonce début février de la mise en examen du président Saïd Chaban, n'oubliez pas que pendant des années, on a mis en avant le triumvirat Chaban Piqueux Moulin et que aujourd'hui mais tout s'est écroulé en un mois et demi, c'est quand même fou. Et Olivier Piqueux du côté du SCO, l'annonce, eh bien, elle a été vraiment, ça a été un raz-de-marée, peut-être encore plus que ce qui s'est passé il y a un mois et demi pour Saïd Chaban.
On sait pourquoi?
Alors, il semblerait que ça soit pour faute grave. En revanche, on ne connaît pas exactement la nature de cette faute grave. Saïd Chaban n'a pas communiqué pour le moment, mais juste pour ce vous donner une image du tremblement de terre. On a même vu un supporter, alors qu'il y a vraiment quasiment personne du côté du SCO habituellement, dire devant, il était devant le centre d'entraînement, dire à Saïd Chaban que Olivier Piqueux était plus important que lui pour le club. Ouais. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, l'équilibre est rompu du côté du SCO, c'est certain.
Pierre-Yves, deux questions. La première, c'est donc tu nous dis que c'est faute grave, qu'on ne sait pas encore. Écoute, est-ce que du coup ça fragiliserait est-ce que du coup il y a des doutes sur la continuité de Stéphane Moulin l'année prochaine? Parce qu'on sait que c'était une équipe, que tu l'as très justement rappelé, une équipe qui fonctionnait très bien entre les deux. Les deux semblaient les travailler trois, en harmonie. Ouais. Les trois aussi avec le président. Là, ça semble être un petit peu l'apocalypse.
C'était plus compliqué depuis quelques mois entre Saïd Chaban et Olivier Piqueux. Stéphane Moulin a toujours essayé de placé à peu près en, justement de façon équilibrée, mais c'est vrai qu'il était très proche de Stéphane Moulin, qu'il a vraiment encaissé le coup, ça a été très compliqué pour lui, et qu'on nous avait prévenu, vous savez qu'il y avait normalement une conférence de presse hier avant le match, elle a été annulée, on nous avait déjà prévenu, pas de questions sur le départ d'Olivier Piqueux, Stéphane Moulin ne voulait pas en parler, oui c'est sûr ça va être compliqué pour Stéphane Moulin. Il faut pas oublier non plus que le frère d'Olivier Piqueux est dans le staff,
et oui.
Donc là aussi c'est compliqué. Non, la situation elle est vraiment très particulière du coup.
C'est incroyable. Alors qu'Angers sportivement fait une bonne saison.
Son dixième.
Allez, Pierre, la dernière question, après on avance.
Pierre, on parlera peut-être de Rennes plus tard, mais on a quand même dans nos, et messieurs aussi, mais on a quand même dans nos clubs français une belle tendance à se mettre des balles dans le pied,
à s'auto-détruire
lorsqu'un club fonctionne de bonne façon et depuis plusieurs saisons maintenant. On l'a vu avec Rennes, donc toi t'étais aux premières loges, là t'étais encore aux premières loges pour Angers. Est-ce que ce serait pas peut-être même toi qui envoie des mauvaises ondes?
Pose-toi des bonnes questions.
J'ai commencé il y a longtemps avec
Nantes. On parle même pas de Nantes, hein, Pierre-Yves. Ouais.
Ah ben non, ça fait 15 ans qu'il fait le boulot, Pierre-Yves. J'ai une dernière petite question, Pierre-Yves, sur le sujet. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que Olivier Piqueux partirait éventuellement à la fin de la saison vers un club un petit peu plus huppé. Est-ce que tu penses que ça a un lien?
Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Saïd Chaban, dans sa conférence de presse il y a quelques jours, avait juste la veille d'annoncer qu'Olivier Piqueux allait être démis de ses fonctions, il a parlé de loyauté. Et je pense que le terme d'accord. important, il est là.
Ouais. Donc il y a peut-être
mais en fait, il y a même aussi bien à Rennes qu'à Angers ou dans d'autres clubs, il y a tellement de choses qui peuvent se passer et dont. Ouais. Qui sont se cachés sous le tapis, qui peuvent ressurgir un jour ou l'autre.
Ouais, mais comme dans le milieu d'entreprise en général.
Mais exactement.
Voilà.
Ce que je peux dire, c'est qu'au bout d'un moment, si il y a des décisions qui sont prises et des décisions aussi fortes, alors que bien tout sûr. Va bien, c'est qu'il y a forcément des raisons.
Il n'y a
pas un président le matin qui se réveille et qui dit tiens, allez, aujourd'hui, je vais me séparer de mon directeur.
Tu faisais le parallèle avec Rennes à l'instant, Kevin et Pierre, je m'adresse à toi également. Rennes, tout va bien finalement. Quelques semaines après, avec du recul.
Oui.
Il fallait qu'un des deux quitte le navire avant de tomber sur les temps, mais ça fonctionne aujourd'hui.
Oui, mais Rennes, ok. D'ailleurs, je l'avais noté par exemple que Rennes allait bien depuis le départ de Stéphane. C'était une de mes questions pour qu'il arrive. Depuis le départ de l'étang. Mais il y a un problème quand même. Parce que c'est toujours une lutte d'ego. À Rennes, c'était le cas. Alors là, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement à Angers, mais et même des fois dans des niveaux plus bas, il y a. Mais c'est l'intérêt du club qui doit primer. Est-ce que le club marchera mieux avec deux fortes têtes qu'avec une seule? C'est comme sur la pelouse.
C'est pas la même situation ici.
Il y a un moment sur le long terme, t'as quand même besoin de tout le monde.
Je pense que c'était couru d'avance, que c'était probablement la dernière saison d'Olivier Piqueux au SCO d'Angers. Il a beaucoup de clubs qui
courent. Ça fait un moment qu'il est là, quand même. Il était avec Willy Bernard à l'époque, ancien président.
C'est ce que je te dis.
Et puis même pour lui, peut-être qu'il faut changer aussi et aller voir.
Dès cet été, il y avait des fortes rumeurs et des bruits plus ou moins fondés sur le fait que Saint-Etienne, Monaco voulait le recruter.
On tourne, puisqu'on a quand même 5 camarades avec nous, 5 correspondants RMC Sport. Question, on va dans le sud-est. Jordan Olivier, correspondant Nice et Monaco. Jordan, question de tonton sur la chaîne RMC Live. Sans Ligue des Champions pour Monaco, Ben Yedder peut-il vraiment rester à Monaco?
Ah, c'est une question que beaucoup de supporters monégasques se posent actuellement. On le rappelle, hein, Wissam Ben Yedder qui est arrivé l'été dernier en provenance de Séville pour 40 millions d'euros et en venant en France, l'objectif de Ben Yedder, on le rappelle monsieur, c'était de retrouver l'équipe de France. C'était d'enchaîner un maximum de matchs, de marquer des buts et d'avoir une visibilité pour oui, c'est très bien parti si l'euro se tient en tout cas dans les prochaines semaines, ce qui est là beaucoup moins sûr. Alors on le rappelle, il est co-meilleur buteur du championnat de France avec 18 buts, il a distribué 5 passes décisives. Globalement, il réalise une super saison alors que son club c'est un peu plus compliqué. Monaco est 9e, donc a priori le pari est gagné et Ben Yedder est de nouveau en lumière pour retrouver l'équipe de France. Après, on sait que de nombreux clubs ont un œil sur Wissam Ben Yedder En Espagne, il a gardé une cote très importante. Il y a eu des contacts, notamment cet hiver avec le FC Barcelone quand le Barça recherchait un attaquant. Donc, on peut imaginer qu'en cas d'offre intéressante, Ben Yedder pourrait effectivement décider de repartir. Mais il a toujours dans un coin de sa tête la volonté de retrouver l'équipe de France. Et quand on veut jouer en équipe de France, faut jouer dans son club. Alors forcément, il aura plus de temps de jeu à Monaco que au FC Barcelone, par exemple.
Ouais, Jordan, moi j'ai plus une question par rapport à Nice et l'environnement niçois aujourd'hui concernant Patrick Vieira. Selon toi, est-ce qu'il va faire une saison de plus l'année prochaine ou est-ce que les dirigeants sont satisfaits de son travail ou est-ce qu'ils voient plus haut avec lui ?
Alors, du côté de Nice, c'est un petit peu différent. On est dans une saison de transition. C'est en tout cas ce que martèle à chaque fois, que ça soit Jean-Pierre Hiver, le président de l'OGC Nice, ou Julien Fournet, le directeur du football. Et ils l'ont redit. D'ailleurs, Julien Fournet l'a redit il y a quelques semaines. Patrick Vieira s'inscrit sur le long terme avec l'OGC Nice. L'objectif, c'est de créer véritablement un projet sur le long terme avec Patrick Vieira. Il est vrai qu'il y a eu quelques rumeurs, notamment quand ça se passait un peu moins bien, un petit peu avant la trêve hivernale d'ailleurs, où les résultats étaient pas au rendez-vous du côté de l'OGC Nice. Également quand un poste d'entraîneur était libre, rappelez-vous, du côté d'Arsenal, il y a eu des rumeurs, pourquoi pas Vieira du côté d'Arsenal. Lui a toujours nié les contacts, même si on sait que dans un futur plus ou moins proche, il souhaiterait, pourquoi pas, entraîner Arsenal, qui est son club, hein. Il était capitaine bien notamment sûr. De cette génération des Invincibles. Donc a priori Patrick Vieira devrait être sur le banc de l'OGC Nice la saison prochaine. Lui le souhaite et les dirigeants également qui souhaitent l'inscrire dans un projet sur le long terme.
Ok, voilà pour l'OGC Nice, on en parlera tout à l'heure encore une fois. Tiens, dans un instant, on va marquer une pause. Marseille avec Flo Germain. Des questions également pour Julien Landry à venir et Jean Baumel à Lille notamment. Tiens, Flo, rapidement avant la pause, question d'Alex 33 qui nous dit, question pour Flo Germain, que devient le trancien crack de la Masia girondine, Greg Sertic, est-il toujours pas très chaland?
Greg Sertic, il est toujours à l'entraînement avec le groupe pro. Il partira en fin de saison puisqu'il est en fin de contrat. Et c'est vrai que ça restera l'un des échecs du recrutement de Rudy Garcia. Mais il est toujours là, toujours jovial malgré tout.
Ah, parce que sourire.
Ça reste un bon gars.
Au salaire qu'il a,
un bon mec. M'étonnes. Oui, non, mais bon, c'est bien de le signaler aussi. Mais c'est vrai que André Villas-Boas, dans sa sincérité qui est celle de chaque conférence de presse, il a toujours avoué qu'il ne comptait pas sur lui. Et effectivement, il n'a jamais joué.
A tout de suite, messieurs. Plein de questions qui fleurissent sur l'hashtag RMC Live, également sur le compte Twitter de l'Afterfoot, le hashtag RMC Live, le 32-16. Appelez-nous dans un instant. Un supporter marseillais, Rob, sera avec nous. A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Damien Perrinel, avec Jonathan McCarty et nos cinq correspondants RMC Sport, Julien Landry, Jordan Olivier, Jean Baumel, Flo Germain et Pierre-Yves Leroux. Je vous rappelle le principe. Appelez-nous, supporters de Montpellier, Nîmes, Nice, Monaco, Lille, Amiens, Angers, Rennes, Nantes et Marseille. Posez vos questions de correspondance, tant bien, ils sont quasi quotidiennement aux côtés de ces équipes. On a du temps. Profitons-en.
Ouais. C'est bon le confinement. Je suis en train de regarder ma fréquence cardiaque. Là, je suis à 50. Alors que pendant les matchs, on est à 90, 100, 120. Hein. C'est
vraiment
50.
Ouais. Ouais.
Bah, sur l'alcool.
À 90, hein. Pendant les matchs, ça ne t'excite pas trop. Hein, du coup.
50.
Sportif de niveau. À la licorne, Gibo, il est en céphalogramme plat en général.
ouais, j'aurais pu faire une licorne à huis clos.
Ah, ça aurait été magnifique. T'as raison.
Les joueurs l'auraient entendu, dans la licorne. T'imagines ?
Ouais. Ils le savent ou pas les joueurs que tu fais la licorne
Je crois que Thomas Monconduit le sait.
Ouais. Il le sait, ouais. Avec bien lui. Rob est avec nous, supporter de l'OM au 32-16. Bonsoir Rob, bienvenue dans l'After.
Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien.
Et on va très bien. Écoute, hein, on essaie de se porter le mieux possible. Toi, tu voulais parler de Dario, Pipa, Benedetto, et tu avais une question également à poser à Flo Germain.
Exactement. Alors oui, bon, alors sur Pipa, moi je suis très content, il faut dire la vérité, parce qu'avec un joueur au tel rapport qualité-prix, franchement, avec la flambée des prix maintenant, On va pas non plus dire que c'est pas bon. Hein.
Ouais. T'as une question à poser à Florent ou pas?
Oui. Je voulais demander, c'est sur l'OM, parce que je suis supporter de l'OM. Est-ce que vraiment le service financier va nous mettre dans la merde ou pas? Est-ce qu'il y a des infos?
Ah, si le fair play financier,
Je vais essayer de le dire autrement, mais
oui, c'est sûr que c'est le dossier compliqué du moment. Après, effectivement, c'est, je pense, ce qui va décider, pour le faire assez court, de l'avenir d'André Villas-Boas en tant qu'entraîneur de l'OM. Parce que André Villas-Boas, alors, devait rencontrer d'ailleurs les dirigeants de l'OM, lui-même l'a annoncé. Ce qui est bien avec Villas-Boas, c'est qu'il est assez cash. Il dit non, mais attendez, c'est le 18 mars. Alors, je sais que les dirigeants de l'OM veulent surtout cacher tous ces rendez-vous-là en coulisses, et lui annonce carrément la date en disant le 18 mars, je vois Jacques Henriot avec Anthony Zubizarreta. Donc, effectivement, lui, on le sait, Rob, son discours à Villas-Boas, c'est de dire moi, je veux des ambitions, surtout si on est en Ligue des Champions la saison prochaine, je veux pas me pointer avec un effectif qui sera trop court et donc risque de faire une saison très compliquée en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Donc, il veut un minimum de garanties, et effectivement, on sait que l'OM doit vendre absolument pour environ 45-50 millions d'euros pour rentrer dans les clous du fair play financier. On le rappelle, c'est ne pas dépasser les 30 millions d'euros de déficit au 30 juin. Par contre, il y a une question qui va se poser et qui se pose pour tous les clubs qui sont surveillés par le fair play financier, c'est quelles sont les conséquences justement de cette crise sanitaire du coronavirus qui change, qui chamboule les données. Parce que évidemment, si le championnat était amené à se terminer fin juin, vous doutez bien que ça devient encore plus impossible de vendre des joueurs avant fin juin. Donc, je m'avance, il pourrait y avoir quand même une certaine compréhension de la part de l'UEFA, au même titre que certaines entreprises auront un petit peu plus de temps pour payer leurs impôts. Qu'on peut repousser l'échéance. Donc ça, c'est à surveiller. Mais Rob, pour répondre très clairement à ta question, le fair play financier, c'est la préoccupation première de Jacques-Henri Hérault, au-delà même du sportif. Et il a eu ce discours-là auprès des salariés en disant que l'important, c'était la pérennité de l'OM au-delà d'une qualif en Ligue des Champions. Donc,
Moi, je vais compléter la question pour toi, Flo. C'est que si je te dis Florian Thauvin, Dimitri Payet, Steve Mandanda, Maxime Lopez, Jordan Amavi, Valère Germain, quels sont leurs points communs? Tous en fin de contrat en 2021.
En 2021, et leur point commun surtout, c'est qu'ils ne voient rien venir.
Exactement.
C'est surtout ça.
Et donc, en fait, t'as un double défi qui attend la direction olympienne. C'est d'une part rentrer dans les clous du fair play financier, mais d'autre part arriver à gérer ces cas très épineux. Et je pense notamment à Florian Thauvin, qui, je l'ai dit plusieurs fois, mais Florian Thauvin, en fait, cette saison, le fait qu'il était blessé, c'est dramatique et pour le joueur et pour l'OM. C'est dramatique pour l'Olympique de Marseille parce que la valorisation d'un joueur à qui il reste, voilà, dont le contrat arrive
un an et demi,
elle va être nulle parce qu'il va pas faire assez de matchs, et c'est malheureux pour le joueur qui risque de ne pas avoir d'offres assez séduisantes pour partir cet été. Et moi, j'ai très peur que, par exemple, Florent Thauvin finisse par se dire ok, j'ai pas les offres qui me conviennent cet été, je vais aller au bout de mon contrat, je vais partir libre. Imaginez le manque à gagner pour l'OM.
Mais tu peux avoir peur, et surtout tu es réaliste, c'est-à-dire que c'est quasiment la tendance du moment. Je sais que dans l'entourage de Florent Thauvin, on estime que son cas personnel a été très mal géré par les dirigeants de l'OM, c'est la version de l'entourage de Thauvin et de ses représentants qui disent que il aurait dû voir venir une prolongation, une proposition un peu plus en amont. Et effectivement, bon, la blessure est venue au pire des moments parce que ça va être compliqué de vendre Thauvin à un bon prix cet été. Pas sûr d'ailleurs, en plus il y a une Ligue des Champions, que lui n'ait pas envie de finir l'aventure marseillaise sur une Ligue des Champions et donc partir libre en juin 2021.
C'est pas juste ça, Flo, c'est profiter de la Ligue des Champions pour avoir une exposition physique pour avoir des offres meilleures que ce qu'il risque d'avoir à la fin de la saison.
Mais Kevin, des offres dont l'OM ne bénéficierait pas.
Pour Thauvin, on est d'accord. Bon, il y a eu quand même la malchance de s'être blessé, comme Jonathan l'a bien dit. Maintenant, pour les autres joueurs, comment l'Olympique de Marseille et comment la direction expliquent que d'autres joueurs qui pourraient avoir potentiellement une valeur marchande intéressante au marché des transferts soient encore à un an et demi de la fin de leur contrat sans prolongation, sans avoir avancé, sachant qu'il y a déjà eu l'affaire du petit Liadji, etc., etc.
Mais moi, j'ai pas d'explication. Et Jacques-Henri Hérault, qu'on a pu interviewer pour RMC il y a un bon mois et demi, moi, je lui ai posé directement la question. C'est-à-dire que, bon, pour être très franc, dans ma question, j'étais même allé assez loin. Je lui avais dit que on ne voyait jamais ça dans des clubs de haut niveau, c'est-à-dire des joueurs qui sont en fin de contrat dans un an et demi et qui ne voient aucun signe venir. On le voit jamais, sauf dans des clubs qui ont des perspectives de revente. Pour être très clair, parce qu'en général, c'est jamais le moment. C'est quand on veut revendre un club, c'est pas le moment de les prolonger, ou en tout cas le club parfois ne s'en donne pas les moyens. Bon, c'était uniquement un raccourci peut-être, mais ça pose beaucoup de questions parce que dans l'entourage des joueurs, joueurs, ils ont la même interrogation, hein, Kevin. C'est-à-dire que moi, je parle avec eux, tous ces joueurs qui sont en fin de contrat en 2021, et eux ne voient rien venir, ne comprennent pas cette situation, se posent du coup beaucoup de questions. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est plus global? Est-ce que l'OM a des perspectives qu'on ne maîtrise pas? Est-ce que Franck McCourt...
Est-ce qu'il s'en peut pas faire?
Comment?
Ça aussi, est-ce qu'ils savent pas faire?
Non, c'est pas possible. À un moment donné,
parce que tu sais,
on peut pas être à ce niveau-là d'incompétence en termes de revente, quand même. C'est pas possible.
Tu sais, Flo, aux États-Unis, les contrats, par exemple, on sait que McCourt a travaillé, par exemple, au niveau de la MLB, hein, la ligue de baseball, si je dis pas de bêtises. Peut-être que les contrats aux États-Unis, c'est pas pareil. Peut-être qu'ils attendent d'aller au terme avant de renouveler.
Ah, Damien,
peut nous le dire.
Non, mais c'est complètement différent déjà. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de Coupe d'Europe aux États-Unis.
Oui, je sais bien, mais
voilà,
il n'y a pas de Ligue des Champions.
Il n'y a pas de Ligue des Champions.
Est-ce qu'il ne voudrait pas gérer
autrement? Il n'y a pas de transfert entre clubs. Voilà, ça n'a rien à voir. Ouais.
Après, chaque cas est différent. Imaginez Dimitri Payet. Moi, je veux bien comprendre que Dimitri Payet a un salaire trop élevé, un âge un petit peu avancé. Donc, on va pas lui proposer une prolongation de contrat maintenant. Thauvin. On en a parlé, le cas est différent. Valère Germain, on peut estimer qu'il a fait son taf, mais que si tu veux le vendre, ne serait-ce que quelques millions d'euros, il faut le faire cet été, parce que évidemment, sinon il partira libre dans un an. Et Maxime Lopez,
mais oui, attends, Flo, mets le salaire de Valère Germain dans l'équation aussi.
Ouais, aussi, voilà, exactement. Et Maxime Lopez, qui malgré tout est un joueur qui, après la saison de Ligue Europa, avait quand même vu quelques clubs qui s'intéressaient à lui, hein, notamment en Espagne, en Liga. Effectivement, là, pour le coup, c'est très surprenant de voir que on ne se soit pas positionné. Je pense que l'OM a parfois été trop gourmand. Pour être très clair, trop gourmand peut-être avec cet étau du fair play financier, cette pression du fair play financier, a peut-être voulu parfois vendre des joueurs à des prix qui n'étaient pas convenables au final.
Et aussi, c'était trop généreux, notamment concernant la masse salariale.
Ça a été le gros problème.
On passe à Montpellier, Julien Landry, bien sûr, qui nous commente les matchs à la paillade. À la paillade. Thomas Pinaroli nous demande sur hashtag RMC Live. Question pour toi, Julien. Quelles sont les décisions prises durant cette période, évidemment, coronavirus, sachant que l'on voyait les joueurs tirer la langue à Montpellier ces dernières semaines?
Semaine de vacances. Déjà, dans beaucoup de clubs de Ligue 1, vendredi matin, Michel Nerzakarian a accordé une semaine de vacances aux joueurs avec des tests médicaux avant de partir, avec un programme pour s'entretenir, évidemment, pour se maintenir en forme. Reprise de l'entraînement lundi, la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'on en a souvent parlé. Je vous ai souvent raconté, d'ailleurs, cette petite anecdote que les équipes de Michel Nerzakarian, souvent, jusqu'au mois de février, sont des équipes qui tournent bien, même quand il était à Nantes, quand il était à Reims. Et c'est vrai que physiquement, ces équipes ont tendance à baisser le pied à partir du mois de février. Alors, il est très exigeant physiquement. Il ne fait pas beaucoup tourner. Et
toi, tu les trouves un peu cramés ou pas, franchement?
Oui, oui. Alors après, il y a des joueurs qui... Le problème, c'est que les joueurs dont on parle, ils sont tellement... on les voit tellement en dit de l'or. On voit que lui quand
ils sont tellement généreux, quoi.
Ils sont tellement généreux que c'est vrai que quand on les sent un petit peu moins bien, ça saute vite aux yeux.
Bah là, c'est criant.
Ouais, je peux
Kevin,
dire,
Damien, avec Kevin, dire, après.
Donc, Darzac, je l'ai eu à Clermont en tant que coach pendant un an, et en effet c'est quelqu'un qui demande beaucoup sur le plan physique, sur le don de soi et dans l'engagement. Et peut-être que au-delà de la fatigue qui peut être physique, il peut y avoir aussi une fatigue mentale avec le coach,
je pense.
Et parce que c'est quelqu'un qui est vraiment exigeant sur plein de choses, sur plein de détails, et au bout d'un moment, quand t'es joueur, toi, inconsciemment, mais tu peux peut-être avoir une relâche.
Kevin. Moi, j'avais une question justement sur le fonctionnement de ce club de Montpellier. On vient de parler du même cas pour Marseille au niveau des contrats, au niveau des transferts. Est-ce que du côté de la paillade, on craint pas un peu, craindre, tout dépend des montants, mais le départ ou en tout cas les convoitises sur leurs deux avancantes qui sont quand même très performantes cette saison, c'est-à-dire Delors et Laborde.
Delors a dit qu'il allait rentrer. Hein.
Ce que j'allais dire, Jonathan, je sais qu'il aimerait qu'il voyage un petit peu plus à l'est.
Il m'a répondu directement sur Twitter en me mettant le lien d'une interview qu'il a donnée à un site de Montpellier où il dit qu'il veut rester à la paillade la semaine prochaine.
Il y a deux particulières, quoi. Il y a deux joueurs qui sont sûrement ceux qui ont la plus grosse valeur marchande aujourd'hui, qui sont Andy Delors
et TJ Savanier, qui sont des joueurs à prendre un peu à part, qui sont des joueurs issus de Montpellier, qui rêvaient de jouer dans ce club-là et qui sont tellement épanouis aujourd'hui. TJ Savanier, il joue devant sa famille, ça a été son rêve, lui qui a été formé au club, qui est parti, qui pensait pas devenir professionnel, jouer tous les jours, quoi, toutes les semaines à La Mosson, pouvoir rentrer chez lui dans son quartier tous les soirs, pour lui c'est un bonheur absolu. Andy Delors, c'est un enfant de 7 qui peut rentrer tous les soirs aussi vers les temps de tôt. Et voilà, c'est des joueurs qui sont totalement épanouis. Ici, d'ailleurs, on vante souvent la saison d'Andy Delors, mais c'est la première fois que Andy Delors réalise deux saisons pleines, coup sur coup. Hein, il a toujours fait des saisons pleines, une saison à Caen, une saison à Tours, mais il n'avait jamais réussi à confirmer. C'est la première fois qu'il confirme sur une deuxième saison. Ça prouve aussi qu'il est tellement très épanoui ici. Les deux joueurs, à mon avis, qui pourraient être sollicités cet été, si jamais il n'y a pas de Coupe d'Europe à la fin de la saison, ça sera évidemment Gaëtan Laborde, qui avait déjà eu des touches en Italie cet été, notamment du côté du Milan AC, qui s'était renseigné. Et à la FIO, et puis peut-être aussi Florent Mollet,
qui ont du mal
un petit peu à intégrer dans ce système de jeu et qui est pas forcément très épanoui. Et s'il y a des offres qui se présentent pour Florent Mollet cet été aussi, je pense qu'il pourrait partir. Voilà les deux joueurs qui devraient être les plus sollicités. Alors évidemment, il y aura des offres pour Savanier et pour Delors, mais je pense très sérieusement que ces deux joueurs-là ne quitteront pas Montpellier.
Nicolas, j'avais une question moi pour Julien, parce que j'ai commenté Montpellier contre Rennes dimanche.
Le 5-0.
Et je voulais savoir pourquoi personne ne leur a dit qu'il y avait un championnat à l'extérieur aussi. Pas qu'à domicile.
Alors, ça c'est.
Julien, garde ta réponse. Il y a les infos qui arrivent dans un instant sur RMC. Et on reprendra avec toi pour ta réponse à la question perfide de Pierre-Yves Leroux.
C'est pas beau que
ça lui ressemble assez bien. Ouais. On revient, on est ensemble jusqu'à minuit. Bien sûr, il y a aussi un auditeur lillois au 32-16 qui nous appelait, qui a une question pour Gibault. Son top 3 des recrues lilloises, apparemment. Ça va faire parler. À tout de suite, c'est l'after. On est ensemble jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything. From city traffic to ocean plastic. New schools to new energy. Flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.